entrevue.
On imagine souvent les milieux queer comme étant des espaces de rupture avec les normes traditionnelles, mais les injonctions à la virilité y sont bien réelles. Comment se construit la hiérarchie entre hommes au sein même de la diversité sexuelle? Pour en discuter, nous recevons Sonny Carpentier, doctorant en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Sonny est également le co-directeur avec Marc-Antoine Bazinet d'un tout nouveau livre collectif intitulé « Masculin pluriel » qui sortira en librairie le 18 mars prochain aux éditions K.O. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, pour débuter, peux-tu nous parler un peu de ce projet masculin pluriel qui regroupe donc 9 auteurs? De quoi ça part? Qu'est-ce qu'on dit là-dedans?
Oui, bien, l'idée, c'était de peut-être faire un contre-discours toutes les conversations publiques qui sont autour des masculinités. On parle beaucoup de masculinité toxique, on parle de masculinisme, par exemple, dans l'espace public. Toutes des conversations qui sont pertinentes, mais Marc-Antoine et moi, on trouvait qu'il manquait peut-être parfois un peu de nuance ou d'utiliser les bons mots. Je pense qu'on est soit dans cette idée-là que la masculinité, elle est nécessairement que toxique, ou à l'inverse, il y aurait des hommes qui seraient positifs, alors qu'on a l'impression que les réalités des hommes et des masculinités est plus variée que ça. Donc, l'idée, c'était de convier des auteurs, de faire un collectif, moi, j'aime beaucoup dire rassembler des vulnérabilités masculines, parce que les hommes arrivent dans ce collectif-là en parlant de leur vécu, de leur expérience de la masculinité qui peut être super violente pour nous-mêmes, les hommes, qu'on peut se faire vivre entre nous, mais aussi en prenant une bonne part de responsabilité sur ces violences-là, parce que oui, nos masculinités, elles sont différentes et plurielles pour chacun, mais il faut quand même accepter qu'il y a quelque chose de collectif, il y a une expérience commune de cette masculinité-là, puis le livre va aussi là.
Bon, je vais quand même aller de tes travaux académiques parce qu'ils portent beaucoup sur ces masculinités-là, mais dans une perspective féministe. Pourquoi la perspective féministe?
D'abord, il faut comprendre que l'étude des masculinités vient des études féministes à la base. Dans les années 70, les études féministes se sont questionnées sur le rôle social des femmes, le rôle qu'on essaie d'imposer aux femmes. Puis, en faisant ça, ça vient aussi questionner. Donc, si les femmes se font imposer un rôle dans nos sociétés, ça veut dire que aussi les hommes se font imposer un rôle dans nos sociétés. Donc, déjà de réfléchir de cette façon-là, c'est une perspective qui est féministe. Puis, aussi parce que dans mes travaux, je travaille beaucoup sur l'idée que la masculinité se maintient beaucoup par le rejet du féminin. Donc, pour se réfléchir en tant qu'homme masculin, c'est souvent en essayant de rejeter des normes féminines, en essayant de prouver qu'on n'est pas féminin, que les hommes essaient de se réaffirmer une masculinité, disons.
Dans tes recherches, tu emploies le terme « hiérarchisation ». Hein? Concrètement, qu'est-ce qu'on valorise le plus chez un homme gay particulièrement aujourd'hui?
Bien, c'est ça qui est intéressant. Puis c'est là que la conversation ne peut pas être unique parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose. Une des choses de la part de l'étude des masculinités, c'est que la masculinité dominante ou attendue change selon tous les espaces. Donc, dans une et même journée, un homme va traverser différents contextes avec différentes masculinités qui sont attendues. Après, quand même, pour répondre à la question, chez les hommes homosexuels et ou queer que j'ai étudié dans le cadre de ma maîtrise, oui, à tous les jours, les hommes qui m'ont parlé, des hommes gays et ou queer, m'ont parlé de leur masculinité au gym, par exemple, ou entre amis ou dans leur famille. Puis ça, c'est des codes différents. Les attentes sont différentes. Mais un peu partout, on m'a beaucoup parlé quand même de vouloir être masculin. Que malgré le fait d'être homosexuel, donc de ne pas respecter une norme hétéro-normative, il y avait une volonté, ou en tout cas, il y a des attentes d'être masculin. Puis ça, c'est partout. Dans les conversations, dans les discours, les hommes ont parlé d'être straight passing, par exemple, donc le fait d'avoir l'air hétérosexuel. Certains hommes se valorisaient dans cette idée-là, donc de ne pas avoir l'air gay. Il y a même des hommes qui m'ont dit, tu sais, il y a des gays, puis il y a des gays-gays. Puis ce qu'ils voulaient me dire par là, c'est qu'il y a les gays qui sont donc plus masculins, puis il y a les gays-gays qui seraient donc des gays efféminés. Donc, il y a dans le langage, dans les blagues, dans l'humour quand même, on retrouve du rejet du féminin, même dans les communautés homosexuelles.
Wow! C'est intéressant comme approche, effectivement, les gays-gays puis les gays. Puis c'est vrai qu'on entend souvent dans les trucs les sites de recherche de compagnons, là, les applications de rencontres, on cherche masculin pour masculin. C'est intéressant. Ouais. Donc, dans tes recherches doctorales, tu parles beaucoup de l'adolescence comme un moment important. Pourquoi?
Ben, en fait, la masculinité se maintient à toutes les époques et de tous les temps. Par contre, puis je dois quand même le dire d'avance, là, je suis au début de mon parcours doctoral, donc j'ai pas encore commencé ma propre recherche où je vais m'intéresser à comment les adolescents québécois d'aujourd'hui apprennent c'est quoi être masculin. Donc ça va venir dans les prochaines années. Mais dans la littérature que j'ai lue en ce moment, c'est quand même un moment charnière où il y a beaucoup d'études qui démontrent que c'est vers 10, 11, 12 ans que les jeunes garçons vont sentir une pression sociale à être des hommes. Donc il y a comme une période dans l'enfance où on a un laissez-passer, un passe-droit, où c'est correct d'être plus exubérant, de danser, d'avoir des comportements qui seraient habituellement jugés féminins. Puis c'est parce que ça vient comme sous une forme de jeu qui est permis. Pas dans tous les espaces, évidemment, mais en majorité. Et puis, une fois qu'on arrive vers la préadolescence, c'est là qu'on a les attentes qui sont différentes. Moi, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont raconté des souvenirs où ils avaient le droit, par exemple, d'être super, de danser, puis tout ça, puis qu'à un certain moment dans leur vie, on leur a dit que c'était plus correct. Donc, c'est un moment important. Puis, c'est là aussi que la socialisation des amis, donc les pairs, et devient aussi plus importante que celle de la famille. On veut respecter les normes qu'on reçoit par nos amis. Donc, malgré qu'on soit dans une famille qui est peut-être super acceptante, qui valorise des normes qui ne seraient pas traditionnelles, ben, le regard des autres devient plus important aussi à cet âge-là.
Je suis curieux de savoir, mais qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut vraiment avoir cette allure, d'avoir l'air masculin? Qui nous impose ça?
Ah, mais tout le monde est personne. C'est ça qui est le plus difficile de ce sujet-là. C'est un système, c'est de toutes les interactions. Puis pourquoi est-ce qu'on veut s'y conformer? C'est pour ne pas subir une violence nous-mêmes. Les hommes apprennent que ne pas respecter les codes de la masculinité, c'est avoir un retour négatif sur nos vies, c'est de vivre une violence qui est petite ou grande. Il y a des hommes qui vont se faire, qui vont subir de la violence physique parce qu'ils ne représentent pas les codes de la masculinité. Ils vont se faire traiter de tous les noms. Les personnes dans la communauté homosexuelle, être homosexuel, c'est déjà une défiance à la masculinité. Donc, on vit une violence parce qu'on n'est pas suffisamment masculin au regard des autres. Mais c'est aussi de la violence quotidienne. Ce sont des blagues, c'est une rectification de nos masculinités. C'est dire, par exemple, ah ben voyons donc, tu sais pas ça. Puis là, là on comprend que ah, on est supposé être en contrôle les conversations. Ou ah ouais, tu portes du rose aujourd'hui. Eh belle, ta petite chemise rose. Puis là, on comprend l'espèce de diminution. Donc, c'est de tous les instants, c'est de tous les comportements. Puis c'est pour ça que c'est compliqué à comprendre puis à bien visualiser.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce devoir de performer la masculinité, est-ce que c'est pourrait être accepté? Est-ce que c'est pire chez les hommes? On va parler des hommes à ce moment-ci, mais des hommes de la diversité sexuelle?
C'est une bonne question. Oui et non. Je pense que ça dépend des personnes quand même. Je pense que c'est pas tant de réfléchir à un groupe commun, mais c'est aussi de penser aux intersections des personnes dans ce groupe-là. Par exemple, c'est plus difficile pour des hommes qui physiquement seraient plus chétifs, par exemple. Donc, déjà, leur corps ne représente pas la norme masculine. Donc, il y a un travail de plus pour essayer d'être masculin. Donc, je pense pas qu'on peut. Oui, le fait d'être homosexuel, c'est déjà un enjeu, c'est déjà une prise là, sur la masculinité, mais c'est pas la seule chose qui fait effet. Puis aussi, il y a des hommes dans les communautés homosexuelles et ou queer qui ont quand même des avantages à être blanc, en forme, jeune, avoir de l'argent, c'est masculin, ça fait partie d'être dominant. Donc, même à l'intérieur, c'est complexe. Donc, tu sais, moi, si un homme, par exemple, est homosexuel, mais il convient à tous les autres standards de la société, mais il y a de bonnes chances que dans la majorité des contextes, il va être dominant plus qu'un homme qui serait hétérosexuel, racisé, pauvre, qui aurait d'autres enjeux. Donc, il faut quand même réfléchir à la pluralité là, des choses qui entrent en contexte.
J'allais donner l'exemple de Heated Rivalry parce que ce sont des hommes super baraqués, beaux, jeunes, riches,
Voilà.
etc. Voilà. Je vais t'amener à nouveau sur le projet, ce projet de livre qui mélange donc des auteurs variés, au profil varié. On parle de Marc Séguin, Vincent Roberge. Est-ce que ça aide à déconstruire cette espèce de logique patriarcale ou sexiste plus efficacement que si on va présenter une thèse de doctorat? Puis je ne vais pas minimiser l'importance de la thèse de doctorat, mais quand on veut agir sur le grand public.
Mais ça, c'est la question de la circulation des savoirs. Puis moi, je trouve que c'est une question qui est centrale. On fait de la recherche, mais on fait de la recherche pour qui? Est-ce que c'est juste pour se parler entre nous, se parler entre chercheurs? Oui, c'est utile dans la mesure où moi, je suis content qu'il y ait des gens expert dans des sujets qui s'occupent, par exemple, de nos systèmes de santé. Moi, je ne pourrais pas m'occuper de ça. Mais après ça, je suis content qu'on m'explique les choses, puis je me demande comment je peux participer. Donc, c'est la même chose sur ces sujets-là. Je pense que oui, je pense que c'est important d'amener les gens à réfléchir à ça. Puis le collectif, malgré que moi, je suis dans le monde académique, je fais de la recherche scientifique sur ces sujets-là. Mon objectif, c'est que ce soit accessible, c'est que les gens puissent y réfléchir. Donc, puis s'ils achètent ce livre-là, puis ils commencent à se questionner sur ces sujets-là, mais peut-être qu'après ça, ils vont aller acheter le livre d'une autrice féministe qui travaille sur ces sujets-là. Donc, pour moi, c'est comme une initiation peut-être à ces sujets-là. Donc, oui, je trouve que c'est important. Puis, il faut pas minimiser aussi l'importance des récits personnels, de la fiction, de l'autofiction. Il y en a dans le livre. Ça vient toucher les émotions aussi. C'est une manière dont on peut s'initier à des sujets.
Je terminerai là-dessus. Comment les hommes, qu'ils soient gays, queer, hétéros, comment ils peuvent concrètement leur résister à ces hiérarchies pour habiter leur masculinité de façon plus libre et moins oppressive? Je sais que tu n'es pas travailleur social, mais quand même, as-tu une petite idée de ce qui pourrait être fait?
Ben déjà, je pense que du côté des identités queer, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de résistance, pardon, quotidienne à ces schémas-là, le fait de se réapproprier une forme de féminité ou une identité, en tout cas, qui est plurielle ou qui nous appartient. Après ça, dans les études sur les masculinités, si je reviens simplement à ça, on voit que les hommes qui ont une version très rigide ou fermée de ce que c'est être un homme, ce sont ceux qui ont le plus de conséquences négatives dans leur vie. Tandis que des hommes qui auraient une version plus flexible de leur masculinité. Donc, être masculin, ce n'est pas juste d'avoir un travail, de ramener l'argent à la maison ou d'être en couple avec une femme, par exemple. C'est aussi d'être un ami à l'écoute, c'est d'aller aider sa mère à jardiner un après-midi. Donc, plus notre masculinité, elle est plurielle, elle inclut des choses, moins il y a de chances qu'elle s'effondre lorsqu'on perd un des piliers. Donc, juste de réfléchir sa masculinité dans une flexibilité de plein d'affaires, c'est déjà un bon pas de fait, là.
Eh bien, Sonny Carpentier, doctorant en sociologie à l'UQAM, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre du livre, c'est Masculinité, Masculin pluriel, qui va sortir en librairie le 18 mars prochain chez K.O. Édition. Merci beaucoup, Sonny.
Merci.